Pour rester dans le rock'n'roll et pour rester à Rouen, est-ce que Nathalie, Denis et Jacques Huppin, vous pouvez venir avec Sébastien Petit raconter un peu une autre histoire rouennaise? Nathalie, on peut, si tu veux, commencer par passer quelques images qui te permettront de raconter une histoire qui est particulière, qui est celle du premier fan club des Cramps que tu avais créé. Il faut que je reprenne le truc là. Et qu'on puisse ainsi voir quelles influences ça a pu avoir et que ça a pu offrir comme contexte à la fois musical et dans les lieux et au niveau des fanzines et de la médiatisation de toute cette musique. Tu nous donneras des explications. Sébastien, je te passe le micro. Je passe d'abord les images de Nathalie.
Donc j'ai découvert, j'étais pas au courant que le premier fan club des Cramps était créé donc à Rouen. C'est ça? Tu peux nous en parler rapidement avant de voir les photos. On va peut-être pas présenter les Cramps, je pense que vous connaissez un petit peu. Je te laisse te présenter.
Bonjour, je m'appelle Nathalie et en fait j'ai fait le fan club des Cramps parce que je me suis dit que le meilleur moyen d'avoir des renseignements que je n'avais pas, c'était de faire le fan club. Et c'était ce après le premier concert des Cramps au Studio 44, où ça a été la folie pour les 350 personnes qui devaient être là ce jour-là, où il y a eu à peu près des rappels pendant quasiment une heure. Le public était au bord de l'hystérie, c'était une transe collective. Bien sûr, je n'ai pas dormi après, etc. J'ai réussi à aller les voir à leur hôtel, alors que j'aurais jamais fait ça pour aucun autre groupe. Et donc, l'année suivante, je faisais déjà partie du fan club anglais. J'ai décidé de faire le fan club français. Et avec l'inconscience de la jeunesse, je me suis renseignée sur le label de disque, le nom de leur directeur, enfin, du gars qui s'occupait du groupe. J'ai pris mon téléphone, j'ai téléphoné, j'ai demandé à le voir. Et je suis ressortie du rendez-vous avec des photos, des articles de journaux. Et après avoir passé une annonce en Rock et Folk et Best, en disant que je faisais le fan club, les fans m'ont envoyé des documents. Donc en fait, c'est une imposture au départ parce que je n'avais rien. Mais c'est en créant le fan club que j'ai tout eu. Donc malheureusement, en 82, alors ça, ce sont les Cramps à Rouen en 81, des photos de Claude Levieux. Donc c'est quand ils arrivent à Mélodie Massacre. Pour la petite histoire, j'aurais fait visiter Rouen sur les pavés, la rue Saint-Romain, la cathédrale, les Beaux-Arts, avec Ivy en talon aiguille. Je les ai fait marcher pendant une heure et demie, je pense qu'ils doivent encore s'en souvenir. Et on est arrivé avec 2 heures de retard, là, pour la dédicace à Mélodie Massacre, où tout le monde les attendait. Donc là, on est toujours à Rouen, au magasin. Et ça, c'est un extrait de mes photos, de mes documents. Et donc, j'ai fait 5 numéros d'un fanzine, et seulement 5, parce qu'en 82, les Cramps avaient trop de fans qui commençaient à fouiller dans leurs poubelles, et il y avait beaucoup de dérives, et ça leur déplaisait. Et ils ont demandé aux fan clubs, à tous les fan clubs, d'arrêter, purement et simplement. Donc tout s'est arrêté brutalement. Et donc là, ce que l'on voit, ce sont des extraits du fanzine que l'on me réclame encore et que je n'ai plus que sous forme de maquette. Et je dois tous les refaire parce que maintenant, les gens les veulent. Donc, vaut mieux tard que jamais. Et donc, en fait, j'utilisais la presse américaine, la presse anglaise, que je faisais traduire, etc. Enfin, je recueillais des tas de documents et puis ça sortait une fois par trimestre. Voilà.
Et à Rouen, est-ce qu'il y a des groupes qui s'inspiraient des Cramps? Est-ce que tu n'as pas eu de groupes influencés?
À ma connaissance, non. Même dans les tributes, il en existe un à Évreux actuellement. Mais je trouve que c'est un groupe qui est inimitable et que ça vire très vite au grotesque.
Oui, ça peut être Cabaret Freaks. Hein,
exactement. Il n'y a que les Cramps qui pouvaient avoir cette allure sur scène.
Et Persona Non Grata aussi, non?
Oui.
Gecko et Bruno nous ont fait des photos pas loin des Cramps. On a vu ce matin quelques photos en Barésie.
Donc là, je n'ai récupéré que trois des fanzines.
Et la promenade dans Rouen avec leur look, ça s'est passé comment? Parce que là, c'est en plein centre-ville.
On a eu des militaires, un camion de militaires qui s'est arrêté, qui a sifflé Poison Ivy. Ah, c'est sûr qu'elle n'est pas passée inaperçue. Donc, voilà. Et d'autres copains aussi faisaient des articles. Là, c'est signé Jean-Marc Pelletier. Donc, en fait, tout le monde collaborait, en fait.
On peut aussi poser la question à Jacques qui les a fait jouer. Comment ça s'est passé?
C'était très rock'n'roll, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le public, il a fallu... Moi, ma préoccupation de directeur de salle, c'était que tout se passe bien, hein, que le public puisse s'amuser, s'éclater, mais le tout dans la joie, la bonne humeur et sans perturbation pour le voisinage. Et même si j'étais bien inscrit dans le paysage, c'était pas facile tous les jours.
Et sur scène, il n'y a pas eu de débordement? Ça s'est passé comment, ce live?
Ah non, sur scène, moi, je n'intervenais pas. Tout ce qui se passait sur scène, c'était tant que c'était un délire de musiciens qui faisaient partie du spectacle, tant que c'était le show, on n'avait pas à intervenir. La sécurité n'intervenait pas non plus.
Il y avait une grande liberté à l'époque.
Ah, il y avait une liberté totale d'expression et on n'intervenait pas du tout sur la prestation de l'artiste. Ouais, il fallait que tout se passe bien, mais surtout l'important dans ces grands concerts qui pouvaient facilement déraper, il fallait que les artistes avant tout fassent le show, c'est-à-dire qu'ils donnent au public ce qu'ils attendaient, voire plus. Et c'était la meilleure façon de pacifier le public.
Est-ce que la création du Studio 44, c'était un peu ça l'idée, c'était d'offrir un espace... Déjà, c'est privé, c'était pas...
Là, il faut reprendre... on va reprendre l'historique. Enfin bon, tout d'abord, moi, ça m'ennuie un peu de... J'ai cédé à la demande d'Estelle, et ça m'ennuie un peu de me raconter une vie de passion. C'est pas ce qu'il y a de plus facile comme exercice. Donc, j'ai cédé, donc je suis mis prêté. Vous m'excuserez, j'étais plutôt dans l'ombre et là, je suis un peu dans la lumière, donc ce n'est pas le rôle que je préfère, bien entendu. Mon parcours personnel d'amateur de musique et de passionné de musique, dès le début des années 70, je m'inscris dans ce que vous avez présenté à Rouen. On était dans l'ère Le Canuet. Et l'ère Le Canuet, on ne pouvait pas produire de concerts. Donc j'ai cherché pendant quelques années un endroit et j'ai eu l'idée de trouver des cinémas de banlieue qui ne fonctionnaient plus. C'était la fin des cinémas. Donc on avait 4 ou 5 cinémas à Rouen qui étaient moribonds. Le Trianon, le Chartreux, le Voltaire, je ne sais plus quoi, il y en a encore un autre à Desvilles. Et donc... Et il a fallu que j'approche le propriétaire. Et j'ai pu commencer... Entre-temps, j'ai fait un petit crochet par un club où je me suis formé, un club qui était plus petit, qui s'appelait le Club Saint-Pierre, qui était une capacité de 300 personnes, où j'étais pseudo-directeur artistique, on va se donner le titre.
Oui, il y a eu le premier concert de Lemmerstein. Le premier concert de Lemmerstein, c'était au Club Saint-Pierre.
Voilà, absolument. Donc là, j'ai fait mes premières armes au Club Saint-Pierre, à la rue Saint-Pierre, qui est un club de 300 personnes à peu près. Donc ça m'a permis de m'entraîner un peu. Dans le même temps, nous avons créé une association pour monter des tournées qui s'appelait Randy Productions. Je ne sais même pas si on avait déposé des statuts, mais au moins on avait le nom. Et on a fait tourner. Dans mon intervention dans le mouvement punk, j'ai aussi participé à la production des Warm Gun, un groupe parisien. Et où j'ai eu l'idée, comme je savais que c'était déjà compliqué à l'époque, de faire tourner des groupes, j'ai engagé un groupe anglais qui s'appelait Les Boys, un groupe punk connu, pour supporter la tournée des Warm Gun. Et ça a très bien fonctionné. Donc on est On est en quasiment 77, là, maintenant, je crois. Et 77, donc, j'arrive au Chartreux. J'ai un contrat d'un an pour le Chartreux. Et un de mes premiers concerts, les Clash. Donc, il y a une petite erreur dans le livre qui a été écrit. Il y a une association qui a fait un livre sur l'Exocet, le temps que j'étais vivant, pour que la mémoire de l'Exocet ne se perde pas. Et il y a une petite erreur de date. J'ai perdu mes archives, à la fois du début de mes activités, et j'ai eu un incendie. Donc, ceci explique cela. Ceci explique l'erreur. Donc, les clashs. Je me suis déballonné, j'avais la possibilité de faire les Sex Pistols aussi, et j'ai passé mon tour, parce qu'on était, on allait en Angleterre, on avait pas mal de contacts avec des agences anglaises et tout, et là je me suis dégonflé, et les Sex Pistols ont joué, si je me souviens bien, dans un casino en banlieue de Paris, et voilà, absolument. Et là, ça a été un peu ravagé. Donc j'étais très content d'avoir passé mon tour. Je ne me sentais pas à la hauteur. Les clashs, ça nous a coûté quand même 80 fauteuils, je crois, ou un truc comme ça. Mais ce n'était pas pour détruire. Là, ce que je pourrais apporter comme précision, ce n'était pas pour détruire. C'est que les gens, en fait, ils voulaient écouter les concerts debout. Et ils montaient sur les fauteuils. Ils auraient essayé de monter sur un fauteuil qui se baisse. Vous allez voir, il est détruit en 2 minutes. Donc, c'était pas pour les journalistes s'en sont emparés en disant il y a une destruction rock'n'roll des fauteuils. Mais pas du tout. C'est simplement, il n'y aurait pas dû y avoir de fauteuil. Ce qu'on a fait rapidement quand le Chartreux a été repris après, ça s'est appelé le Studio 44, parce que moi j'ai eu un contrat d'un an. Et au bout d'un an, il y a un petit malin qui est arrivé, qui a tout racheté, qui a repris l'idée, etc., etc., et qui en a fait le temple du disco, Studio 44, en hommage au 44 à New York, si c'est bien ça, le temple disco de New York. Donc, et au bout d'un an et demi, ce club n'a pas tenu, il a fait faillite. Entre-temps, on a organisé quelques concerts avec les copains, Iggy Pop, je ne sais plus quoi encore. Enfin, il y a tout ça dans le bouquin avec les dates. C'est pour ça, c'est mon pense-bête, parce que je m'excuserai, la mémoire est un peu défaille un peu, et vu le nombre de concerts, il faudrait bien me pardonner. Donc, il se trouve qu'ils ont déposé le bilan, et là, j'ai eu l'occasion de reprendre la salle Studio 44 et de créer l'Exocet que j'ai ouvert en 83. Donc, et après, avec le parcours que l'on connaît. Donc, pourquoi je suis arrivé à l'Exocet? C'est pour ça que j'ai commencé à le dire et j'ai un peu divergé dans mon propos. C'est que l'ère Le Canuet ne permettait pas qu'on fasse de musique. Et donc, il fallait à tout prix chercher un lieu. Et ce lieu-là était sur la rive gauche, et c'est l'intervention que j'ai faite ce matin. Ce lieu-là était sur la rive gauche, et tant qu'on faisait de la musique et du bruit sur la rive gauche, ça ne perturbait pas du tout les gens de la rive droite. Il y a une explication politique et sociologique.
On remarquera que le 106, c'est la rive gauche. Comment ? On est toujours dans cette idée-là, parce que le 106, c'est la rive gauche.
Le 106, c'est rive gauche, mais c'est un autre problème. Ça, je vous expliquerai éventuellement pourquoi, si ça vous intéresse, le pourquoi du 106. Mais c'est un autre débat.
Il y a une longue histoire derrière, c'est vrai.
C'est une longue histoire. Il y a un vieux dossier, là, puis ça va être long, on n'aura pas fini ce soir. Donc il y a un vieux dossier. Donc il se trouve que, pour des raisons politiques, je suis venu à Petit-Quevilly. J'habitais, moi, à Rive-Droite, pour faire un clin d'œil aux Vermines. Enfin, moi, j'habitais à Rive-Droite, je venais travailler à Rive-Gauche. J'étais quand même courageux, parce que c'était dangereux, la Rive-Gauche. C'est bien connu. Et voilà pour ce qui est de... Et en finale, en 2010, les politiques ont eu raison. Je suis venu pour des raisons politiques à Petit-Quevilly. Et en 2010, les politiques ont eu raison de mon établissement. La ville de Petit-Quevilly, qui avait un projet immobilier, quand on voit ce que ça donne maintenant, en 2018, ce que... Le tas d'immondices qu'ils ont mis sur la place des Chartreux, qui s'appelle des immeubles HLM, ils ont eu un projet immobilier, ils m'ont collé une fermeture administrative. dont j'ai eu le mais, plus de mal.
Et si on revient, parce qu'on avait dit que c'était un autre débat, mais si on revient à l'Exocet, moi ce que j'ai trouvé assez intéressant, en plus de la richesse de la programmation, c'est que la plupart des groupes locaux ont eu la chance de faire les premières parties. Enfin, c'était un parti pris.
C'est un parti pris absolu. C'est-à-dire que moi, j'ai été élevé un peu à l'école anglaise. Et j'ai toujours, même si c'était dans de mauvaises conditions financières, et ça, ils peuvent tous en témoigner, j'étais pas très large sur les conditions de rémunération, même souvent c'était gratuitement. Je n'avais pas le choix. Il faut savoir que mon établissement, je l'ai tenu pendant 30 et quelques années sans subvention, en gestion en entreprise. Donc, j'avais les bourses, les cordes de la bourse qui étaient un peu serrées. Donc, c'était un parti pris systématique de mettre une première partie régionale devant un groupe national ou international. Je ne cédais pas aux pressions des producteurs, parce que tous les producteurs, que ce soit Garance, Alias, etc., systématiquement, ils ont des jeunes poulains à mettre en première partie, à exposer, parce que la difficulté d'un artiste, bah, c'est bien d'être exposé, de rencontrer un public. Et donc j'ai résisté à tout ça, ce qui ne se passe plus maintenant. Si on voit maintenant ce qui se passe, au 106, où j'ai un avis quand même, c'est que quand les groupes arrivent, on arrive avec un plateau clé en main et il n'y a plus de place pour les premières parties. La plupart du temps, je veux dire dans 80 ou 90%, ça c'est une petite réflexion un peu... On va dire, je sais pas quoi, je vous laisserai le qualificatif. Mais n'empêche qu'il n'y a plus l'exposition des groupes régionaux et locaux. Et c'était vraiment un parti pris de ma part.
Ah justement, quand l'Exocet a fermé, en fin de compte, les groupes ils sont revenus jouer rive droite. Mais là, dans des lieux un peu plus associatifs, dans des bars, on n'avait plus de lieu, en fin de compte, pour faire des concerts avec des bonnes conditions, pour faire des concerts de 300-400 places. Et depuis la fermeture de l'Exocet, c'est vrai que ça a été difficile de nous, de se remettre, nous, à faire jouer des groupes. On se retrouve dans des lieux où c'est 400 places. Et à Rouen, on n'a plus de lieu intermédiaire.
Il n'y a plus de lieu intermédiaire. On nous a vendu au moment du passage Exocet 106, et pour des raisons de promotion immobilière, on nous a vendu que le 106 répondrait à toutes les demandes et qu'avec la petite salle, tout. Bon, ça a été vendu aux électeurs. Hein. Après, je laisse les gens apprécier et puis utiliser leur bulletin de vote quand ça sera nécessaire. Mais.
Mais après, il y a quand même eu des initiatives. Il y a eu les squats, il y avait chez Emile, il y a eu plein de lieux. Enfin, même si on n'avait pas les lieux, souvent, on parlait de Le Canuet qui a généré un peu la scène punk et des choses. Mais contre tout ça, je trouve qu'à Rouen, il y a toujours eu des initiatives d'assaut, de groupes pour quand même arriver à proposer, des fois, on peut dire dans des conditions difficiles, mais il y a toujours eu des gens qui ont essayé de proposer pour que les groupes jouent.
Mais là, il n'y a plus personne, là, maintenant. Parce que rue Michel du Bateau Yves, oui, le Bateau Yves est fermé. Il y a très peu de lieux.
Là, il y a le Calife qui essaye, mais c'est une école de musique, c'est un lieu intermédiaire.
Le Calife, là, c'est encore un autre problème. Là. C'est une école de musique. Une école de musique n'a pas à faire de diffusion. Donc, il y a un moment, il faut savoir, il ne faut pas mélanger les gens. Donc, ça, c'est un vieux débat. Mais comme il n'y a rien, on laisse faire. Voilà.
Je ne sais pas s'il y a des questions justement sur l'Exocet ou sur les crampes, si vous êtes fan des crampes, si vous voulez avoir des anecdotes, je ne sais pas si tu as des anecdotes ou des souvenirs particuliers, ou même sur les lieux, parce que tout à l'heure on parlera du squat chez Emile, ou si vous voulez qu'on parle des lieux d'aujourd'hui, je peux vous répondre aussi par rapport à mon activité.
Bonsoir, bonjour. Hein. moi, j'ai une petite question donc, pour Jacques Cupin. Comment vous décidez de programmer tel ou tel groupe à l'Exocet? Est-ce que vous aviez des contacts avec les radios? Pareil pour les groupes locaux. Est-ce que les groupes apportaient vos maquettes? Comment vous choisissez tel et tel groupe ce soir-là ou, voilà. Comment vous choisissez vos propres groupes dans la salle quoi?
Il se trouve qu'au moment où j'ai créé la salle, on a été 5 ou 6 en France a créé le même type de salle. Je citerai le Bikini à Toulouse, Montpellier, ça m'échappe, je ne sais plus le nom, l'Aéronef à Lille, Lyon, le Transbo, etc. Et qu'il y a eu un circuit de groupe, un circuit qui s'est créé où les producteurs nationaux nous donnaient des groupes. Donc déjà, on avait le groupe vedette, si je puis dire, entre guillemets. Et après, en fonction de ce qu'on proposait, il y a des gens qui avaient envie de jouer, il y a des gens qui pouvaient avoir envie et qui ne pouvaient ne pas supporter, parce que la salle Exocet, c'était quand même 1000 personnes. Quand on va monter sur scène, on sort du garage et on monte sur une scène qui fait 16 mètres de large, c'est 100 mètres carrés, un plateau de 100 mètres carrés. C'est pas forcément évident. Donc c'était aussi à moi d'apprécier s'il s'agissait pas, en laissant exposer les régionaux, ce que je ne voulais pas, c'est qu'ils en sortent grandis, qu'ils tirent leur épingle du jeu. Je ne voulais pas qu'ils se brûlent les ânes, parce que c'est complètement crétin qu'un groupe qui n'est pas prêt soit exposé devant 1000 personnes, et il est cramé, et on n'en fera plus rien, et il a peut-être un potentiel, extraordinaire devant lui. Donc c'est pas simple, comme je ne peux pas vous répondre de manière...
Mais il y avait aussi un promoteur local, il y avait la machine à sourds qui
programmait. Oui, j'ai travaillé avec différents promoteurs locaux. Oui. J'ai travaillé avec la machine à sourds, je travaillais avec les associations. Je ne produisais pas tout seul, je coproduisais. Moi, j'avais le lieu, j'ouvrais le lieu et je recevais. Donc, et on coproduisait la plupart du temps. Moi, j'ai toujours eu d'excellents rapports avec la machine à sourds, par exemple. Avec Thierry Valette de la machine à sourds, ça s'est toujours très bien passé.
Ouais, après, il y a eu volume, on a toujours eu des promoteurs.
Un peu plus compliqué, parce que lui est un peu plus...
Pardon.
un peu plus compliqué, parce qu'un peu moins professionnel. Donc, parce que lui, on recevait les artistes, et il avait sa part. Quand on est une salle et qu'on accueille, quand on fait une coproduction avec un producteur, en principe, la salle accueille l'artiste, le producteur, mais la salle s'occupe que de la réception du public. Et le producteur qui amène l'artiste s'occupe de la réception de l'artiste et de lui fournir ce qu'il faut dans les loges, l'hôtel, machin, etc. Et Volume avait tendance à croire que c'était à la salle de le fournir. Donc, et parfois ça faisait des nœuds et il nous mettait ça sur la table. Donc,
Et du coup, est-ce que l'Exocet travaillait avec des médias locaux? Est-ce qu'avec des radios ou avec des labels ou comment est-ce qu'il y avait un réseau rouennais ou
on travaillait avec on avait un service d'affichage, on travaillait avec les médias locaux, presse, les médias Paris Normandie, Liberté Dimanche, je ne sais plus quoi, ce qu'il pouvait y avoir, les radios quand. Parfois, il y avait des exclusivités, ce qui fait que ça ne pouvait pas fonctionner. S'il y avait une exclue nationale sur un artiste, on ne pouvait pas travailler avec une radio locale. Enfin, ça, c'était pas simple. Là. On était dans des trucs un peu... Et parfois, c'était pas bien compris des radios locales. Parce que quand il y avait une exclue nationale, bah, une exclue, c'est une exclue. Et vu le... Parce que la salle, c'était quand même assez important... les artistes qu'on recevait. Dans les derniers artistes importants que j'ai reçu Muse, par exemple. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut, par exemple.
Et par rapport à l'Exocet, on peut aussi souligner, on a parlé tout à l'heure, il y a une compile qui s'appelle Rock à Rouen, qui avait été enregistrée en live à l'Exocet. Oui. Il y a aussi des concerts, Sortie Sentimentale, elle est sortie un live de mémoire. Oui. Aussi enregistré à l'Exocet, enfin, il y a aussi un lien important avec la production de disques.
Dans les choses que vous avez citées là, précédemment, dans les images qu'on a vues, le disque de 1595, c'est moi qui l'ai produit, ce disque-là.
D'accord.
Donc, je sais que c'est moi qui ai concepté la pochette, enfin, c'est pas moi qui l'ai dessiné. Et le code-barre, je m'en souviens très bien, c'était juste simplement pour une provocation... de mettre un code-barre sur un disque, c'était l'écriture 1595 en code-barre, c'était quand même assez provocation. Enfin, moi, j'ai considéré ça comme tel à l'époque. Après, l'initiative de Rock à Rouen, J'avais un ami qui avait un label à Paris et je lui dis, ce serait peut-être bien que tu fasses rock à Rouen, rock à Toulouse, rock à Montpellier, rock à machin, enfin bon, et que à partir de là, cette opération-là s'appelait Rock en France. Ça s'est appelé Rock en France. Et donc on a fait cette compile a été enregistrée en faux live, c'est-à-dire en live, mais sans public à l'Exocet. Après on l'a mixé dans les studios. On l'a mixé où il fallait, ça a été gravé. Enfin dans les... Après, ça a suivi un circuit professionnel, donc ça a donné la compile Rock à Rouen. Et l'avantage de cette compile, bon, ça, il n'y en a pas eu énormément de vendus, 2 ou 3 000, je crois, au niveau national. À l'époque, on trouvait ça peu, mais ce qu'ils trouvent à l'image de ce qui se passe maintenant, c'est beaucoup. Mais surtout, ça nous a permis d'amener à Rouen l'émission Les Enfants du Rock.
D'accord.
C'est comme ça, avec la compile, le label. Enfin, et ça, la salle était. Moi, j'étais très impliqué, très impliqué dans ces choses-là. Quoi. Parce que je savais qu'il y avait un déficit et surtout qu'il fallait exporter les groupes rouennais. Moi, ce que je voulais, c'est qu'on les exporte, qu'on ne les garde pas à Rouen. Je ne voulais pas les garder à Rouen. Ce que je voulais, c'était faire. Comme Noir Désir de Bordeaux, enfin je sais pas quoi, d'en faire dans chaque ville qu'il y a un groupe emblématique, un ou plusieurs. Les Dogs ne me suffisaient pas, il m'en fallait plusieurs. Et puis pour faire vivre une salle, il en fallait plusieurs aussi. Donc c'était pas désintéressé.
Vous avez enregistré les concerts ?
Non, ça on n'avait pas le droit.
Il y a quand même des vidéos qui traînent sur YouTube, il y a des enregistrements pirates.
Il y a quelques vidéos, non, les concerts n'ont jamais été enregistrés. Ça fait partie des choses que dont je m'y suis engagé et j'ai pas enregistré. Parce que c'est aussi pour ça que j'ai eu des artistes de renom, parce qu'ils savaient que je pipotais pas, je piratais pas. Parce que si maintenant j'avais piraté tout ce qui s'est passé à l'Exocet, je pourrais vivre une retraite tranquille.